Love Me Tender, Love Me Sweet en direct et en public de la CAFPO, 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour. On vient de passer, enfin il y a déjà une bonne heure, on a passé la mi-temps de ce marathon de lecture en direct et en public de la CAV. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous qui nous écoutez depuis votre lit, dans votre bain, dans les bras de votre amoureux ou de votre amoureuse. Venez nous rejoindre. Et vous pouvez sinon nous écouter sur internet l'ondemiroir.fr, l'ondemiroir.fr ou sur fmr.net. On salue les amis gersois qui nous écoutent avec Radio Fil de l'eau et de suite on va rejoindre un poète surréaliste, un poète magnifique, Robert Desnos, mort en 1944 ou 45 dans le camp de Térézine au moment où les Américains ont libéré le camp. Robert Desnos est un des plus grands poètes surréalistes et Marion Lomonaco, accompagnée par Vincent Ferrand à la contrebasse, va nous proposer un petit voyage dans la poésie de ce poète magnifique.
Il était, un grand nombre de fois, un homme qui aimait une femme. Il était un grand nombre de fois, une femme qui aimait un homme. Il était un grand nombre de fois, une femme et un homme qui n'aimaient pas celui et celle qui les aimait. Il était une fois... Une seule fois, peut-être. Une femme et un homme qui s'aimaient. Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit. Suivre tes pas, ton ombre à la fenêtre. Cette ombre à la fenêtre, c'est toi. Ce n'est pas une autre. C'est toi. N'ouvre pas cette fenêtre derrière les rideaux de laquelle tu bouges. Ferme les yeux. Je voudrais les fermer avec ma bouche. Mais la fenêtre s'ouvre. Et le vent qui balance bizarrement la flamme et le drapeau entoure ma fuite de son manteau, la fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas toi. Je le savais bien. Dans la nuit, il y a naturellement les sept merveilles du monde et la grandeur et le tragique et le charme. Les forêts s'y heurtent confusément avec des créatures de légende cachées dans les fourrés. Il y a toi. Dans la nuit, il y a le pas du promeneur et celui de l'assassin et celui du cher sergent de ville et la lumière du réverbère et celle de la lanterne du chiffonnier. Il y a toi. Dans la nuit passent les trains et les bateaux et le mirage des pays où il fait jour, les derniers souffles du crépuscule et les premiers frissons de l'aube. Il y a toi. Un air de piano, un éclat de voix, une porte claque, une horloge. Et pas seulement les êtres et les choses et les bruits matériels, mais encore moi qui me poursuis ou sans cesse me dépasse. Il y a toi l'immolé. toi que j'attends. Parfois, d'étranges figures naissent à l'instant du sommeil et disparaissent. Quand je ferme les yeux, des floraisons phosphorescentes apparaissent et se fanent et renaissent comme des feux d'artifice charnus, des pays inconnus que je parcours en compagnie de créatures. Il y a toi, sans doute, ô belle et discrète espionne, et l'âme palpable de l'étendue, et les parfums du ciel et des étoiles, et le chant du coq d'il y a 2000 ans, et le cri du paon dans des parcs en flammes, et des baisers, des mains qui se serrent sinistrement dans une lumière blafarde, et des essieux qui grincent sur des routes médusantes. Il y a toi, sans doute, que je ne connais pas, non, que je connais au contraire, mais qui, présente dans mes rêves, t'obstine à s'y laisser deviner sans y paraître. Toi, qui reste insaisissable dans la réalité et dans le rêve. Toi qui m'appartiens de par ma volonté de te posséder en illusion, mais qui n'approche ton visage du mien que mes yeux clos, aussi bien au rêve qu'à la réalité. Toi, qu'en dépit d'une rhétorique facile où le flot meurt sur les plages, où la corneille vole dans des usines ruines, où le bois pourrit en craquant sous un soleil de plomb, toi qui es à la base de mes rêves et qui secoue mon esprit plein de métamorphoses et qui me laisse ton gant quand je baise ta main. Dans la nuit, il y a les étoiles et le mouvement ténébreux de la mer, des fleuves, des forêts, des villes, des herbes, des poumons de millions et millions d'êtres. Dans la nuit, il y a les merveilles du monde. Dans la nuit, il n'y a pas d'ange gardien. Mais il y a le sommeil. Dans la nuit, il y a toi. Dans le jour aussi. Ce sont donc des petits éclats éparpillés de desnoses qui sont pris ça et là. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps, peut-être. Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute. Ô balance sentimentale. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille, je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, d'en marcher, parler, coucher avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être. Et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera éternellement sur le cadran solaire de ta vie. coucher avec elle. Pour le sommeil, côte à côte. Pour les rêves parallèles. Pour la double respiration. Coucher avec elle pour l'ombre unique et surprenante. Pour la même chaleur, pour la même solitude. Coucher avec elle pour l'aurore partagée, pour le minuit identique, pour les mêmes fantômes. Coucher, coucher avec elle pour l'amour absolu, pour le vice, pour le vice, pour les baisers de toute espèce. Coucher avec elle pour un naufrage ineffable, pour se prostituer l'un l'autre, pour se confondre. Coucher avec elle pour se prouver et prouver vraiment que jamais n'a pesé sur l'âme et le corps des amants le mensonge d'une tâche originelle. Toujours avoir le plus grand amour pour elle n'est pas difficile. Mais tout est douteux pour les cœurs de feu, pour les cœurs fidèles. Toujours avoir le plus grand amour. Y a-t-il des trahisons involontaires ? Non, la chair n'est jamais menteuse et le corps du plus vicieux reste pur. Pur comme le plus grand amour pour elle. Dans mon seul cœur, il fleurit sans contrainte. Nul bout jamais n'atteignit l'image de celle, la seule, aimée dans le cœur de l'amant. Non, nul bout jamais n'atteignit le plus grand amour pour elle. C'est pour sa pureté qu'on admire le diamant. Nul bout ne tache le diamant, ni le cœur de celle la plus aimée dans le cœur de l'amant. Le plus sincère amant, capable du plus grand amour, n'est pas un chaste, ni un ascète, ni un puritain. Et s'il éprouve le corps des plus belles, c'est qu'il sait bien que le plus beau est celui de l'aimer. Le plus sincère amant est un débauché. Sa bouche a connu et éprouve tous les baisers. Se livrerait-il à tous les vices ? Il n'en vaudrait que mieux. Car le plus sincère amant, s'il n'est pas aimé par celle qu'il aime, peu lui importe. Il l'aimera, éternellement. Désirera d'être aimé. Et d'aimer sans espoir deviendra pur comme un diamant. Tout son corps ne sera qu'une proie décevante pour les autres fausses amantes et les faux amours. Et sans pitié, l'amant, le véritable, sacrifiera tout pour celle qu'il aime. Qu'importe s'il a toujours le plus grand amour pour elle. Au jour de la rencontre désirée, il sera plus pur que l'aube et le feu, et prêt pour l'extase. Toujours avoir le plus grand amour pour elle. Il n'y a pas de trahison corporelle. Et que ton cœur batte toujours pour elle, que tes yeux se ferment sur son unique image, être aimé par elle. Nul bonheur, nulle félicité, désir, pas même, mais volonté. Ou plutôt destin, être aimé par elle. Non, pas une nuit de toutes les nuits, mais à jamais, pour l'éternel présent. Son paysage et sans lumière. Être aimé par elle, écrit dans les signes du temps. Malgré tout, contre antan et futur, à jamais. Mais pour être aimé par elle, faut-il perdre jusqu'à l'amour ? La vie, n'en parlons pas. L'amour non plus. Être aimé par elle, c'est inévitable. Pas de chant, pas de cri, nul sentiment. Être aimé par elle, marbre impassible, mer figée, ciel implacable. Mais attendre longtemps, attendre encore, attendre, non, nier par l'éternité. Mourir après elle est le rôle dévolu à l'amant. À lui seul, le droit suprême de graver un nom sur une pierre périssable, de graver un nom sur un arbre périssable et de s'éteindre pour jamais. S'éteindre, lui, après elle. Mais l'amour, le plus grand amour, brûlera comme une flamme éternelle. Depuis de si longs mois, ma chère, que je t'aime, pourquoi ne pas vouloir connaître mes travaux ? Si mes jours sont soumis à de mornes systèmes, mes nuits sont escortées par de nobles prévôts. Dois-je veiller encore sur un bûcher renaissant, si vif que le phénix ne pourrait y survivre ? Ou dois-je naufrager vers les vaisseaux passants et feuiller sans raison les pages de ce livre ? Dois-je m'anéantir pour éteindre ma foi ? L'univers de mon rêve exalte ton image, mais les pays fameux que j'ai créés pour toi seront-ils traversés mieux que par ton mirage ? S'il faut mourir au pied des idoles rivales, je suis prêt. Confessant ta cruelle grandeur, je mourrai, si tu veux, pour n'être en tes annales que l'écho faiblissant d'une inutile ardeur. Je donne tout pour toi, jusqu'au cœur des fantômes. Soumis à mon fatal et délicieux tourment, quitte pour disparaître en deux lignes d'un tome et sans être invoqué le soir par les amants. Je suis là de combattre un sort qui se dérobe. Là de tenter l'oubli. Là de me souvenir du moindre des parfums émanant de ta robe. Là de te détester et là de te bénir. Je valais mieux que ça, mais tu l'as méconnu. Un jour d'entre les jours de soleil sur les roches, souviens-toi de l'amant dont le cœur était nu et qui sut te servir sans peur et sans reproche. Attends-tu que j'aborde à de lointains rivages pour dire, en regardant tes genoux désertés, qui donc s'en est allé ? J'ignore son visage, mais pourquoi s'en va-t-il seul vers sa liberté ? Il faut le retrouver, serviteur infidèle, l'enchaîner à mon bagne après l'avoir châtié, et qu'il me serve encore avec un cœur modèle, sans même pour ma peine éprouver sa pitié. Car je suis impérieuse et veux qu'on m'obéisse. Nul ne doit me quitter sans être congédié. Tant pis pour celui-là qui rentre à mon service, si son orgueil hautain ne l'a pas répudié. Je connais pour les cœurs des prisons fantastiques que l'amant fugitif y retourne plus tôt, car il me faut ce soir de nombreux domestiques pour cirer mes souliers et m'offrir le manteau. À quoi bon ? Non, l'évadé connaît bien sa prison. Sans doute a-t-il choisi de trop précieux otages pour vouloir à nouveau te payer sa rançon. Les trésors d'un cœur pur ne souffrent pas partage. Évade-toi de l'eau, des prisons, des potences. Adieu. Je partirai comme on meurt un matin. Ce ne sont pas les lieux qui feront la distance, mais ces mots. Je l'aimais. Murmurer au lointain. Merci à tous pour votre écoute et à la CAF Poésie.
C'était Vincent Ferrand et Marion Lomonaco pour ce voyage dans l'univers de Death Note. On va enchaîner maintenant pour une dernière carte blanche au conservatoire. On me parle de Gerasim Luka, apparemment. Il y a quoi d'autre ? Ah, et Roland Barthes.
Et une chanson d'Orelsan.
Franchement. Il n'y a qu'à la CAFPO qu'on peut trouver ce mélange. Roland Barthes, Orelsan et Gerasim Luka. C'est ici et maintenant avec Love Me Tender. 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour.
Thank you. pas, 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 le pas, le pas, pas, pas le faux pas, le pas, 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 pas. Le pas, le mot, le mauve, le mauvais pas.
Mauvais pas.
Le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, papa, passe le pas du pape sur la pipe du papa, pisser en masse. Le coup de foudre est une hypnose. Je suis fascinée par une image. D'abord secouée, électrisée, mutée, retournée, torpillée. Ensuite, engluée. Aplati, immobilisé, du coup de foudre est si fort, cela me tombe dessus, sans que je m'y attende, sans que je le veuille, sans que j'y aie la moindre part. Je ne cesse de m'étonner d'avoir eu cette chance. Rencontrer ce qui va à mon désir. Ou avoir pris ce risque énorme. M'asservir d'un coup à une image inconnue.
Vos passions d'or.
Rêve d'union totale. Tout le monde dit ce rêve impossible. Et cependant, il insiste. Je n'en démords pas.
C'est dommage. Ne dominez pas vos rats. pas Vora. Ne dévore, ne dominez pas Vora. Minez pas vos nations, ni mes donies. Minez pas vos rats, vos passionnantes rations de rats, de papa passion. Minez pas vos passions, vos rationnants ragouts de rats, dominez pas cet avant-goût de ragout, de pas. Parce que j'ai pas de rapport depuis des mois. Je cherche un mec un peu facile, un peu naïf, qui voudrait sortir avec moi. Physiquement, tu m'attires pas parce que ça, mais je t'apprête en n'importe quoi. J'ai l'intention de te faire teaser jusqu'à ce que tu veux bien dormir chez moi. J'irai jamais décrocher la lune pour tes yeux, mais quitte à rien branler, autant le faire tous les deux. Bon, des fois je me tromperai de nom, parce que je kiffe encore mon ex, alors je t'appellerai peut-être par son prénom. Des fois je rentrerai à l'aube avec 12 grammes dans le sang. De temps en temps je penserai à un autre quand on couchera ensemble. Tu verras jamais mes parents et je veux pas rencontrer les tiens. Je te préviens, si tu me dis je t'aime, je répondrai je t'aime bien. Si tu cherches une banane sportive et romantique, c'est raté, paraît que je suis juste qu'une pauvre meuf égocentrique. De la neige, il est né. Passionné, né, il est né à la nage, à la rage, à la nage, à la rage, à la nage, à la rage, il est né, nage, à la rage, il est né, nage, à la rage, il est né, à la nécronage, cra, rage, il est né de la passion, passionné.
Rêve d'union totale. Tout le monde dit ce rêve impossible. Et cependant, il insiste. Je n'en démords pas. Il insiste.
Je.
Il insiste.
Je. Je t'aime.
Il insiste.
Je t'aime.
Pas. Il insiste.
T'aime. Je t'aime.
Passion. Il insiste.
T'aime. Je. Passion.
Il insiste.
J'aime. Passionné. Je t'aime. Je t'aime.
Il insiste.
Passe. Oh, passion. Oh, ma passion. Ma terrible passion, passionnée, je t'ai terrible passion,
j'en sais plus sur moi que tous ceux qui ignorent seulement ceci de moi. Que je suis amoureux.
Je t'aime. Passionné. Je t'aime, je t'aime passionnément, aimante.
Je
t'aime.
Je t'aime,
passionnément.
On va enchaîner avec un dernier duo proposé par le Conservatoire. Après Grazim Lucas, Aurel San et Roland Barthes, on va aller cette fois du côté de l'Irlande. avec James Joyce, le temps d'une petite installation, et on vous retrouve sur pour Love Me Tender.
En direct de la Cave Poésie.
Live, rue du Thor.
Live me
tender.
Live me
tender.
Live me
tender.
En direct de la Cave Poésie.
Live, rue du Thor.
Live me
tender.
Live me
tender.
Live me
tender.
Live me
tender.
Dernière étape avec le conservatoire et l'IFMI. Alors, un petit détour vers l'Irlande, donc. À vous de reconnaître l'auteur. Pour la personne qui reconnaît l'auteur, il y a un coup gratos au bar. D'accord ? C'est parti. Pour ceux qui savent, évidemment, vous les jeunes là-bas, vous soufflez pas. Hein.
Douce petite pute Nora.
Zir, désir, ce désir.
ma sale petite fille. Je suis ravi de voir que tu aimes être foutu par le cul.
Donc, ce désir.
Oui, maintenant je peux me rappeler cette nuit où je t'ai foutu si longtemps par derrière.
Pourquoi ? Donc, ce désir.
Chérie, ça a été la baise la plus dégueulasse que je t'ai jamais faite.
Je lui cède.
Ma pine est restée plantée dans toi durant des heures en te foutant et te refoutant par en dessous ta croupe redressée.
Parfois, je lui cède. Pourquoi ? Donc, ce désir.
Je sentais tes grosses fesses grasses en sueur sous mon ventre et je voyais ta face enfiévrée et tes yeux fous.
À mon envie, parfois, je lui cède. Fais-en toucher.
À chaque coup de queue que je te donnais, ta langue impudique jaillissait d'entre tes lèvres. Et si je t'en donnais un coup plus fort, plus profond que d'habitude, des pets bien gras, bien sales sortaient en crachotant de ton derrière.
À mon envie, parfois, je lui cède. Pourquoi ? Donc, ce désir.
Tu avais un cul plein de pets cette nuit-là, chérie, et je te les sortais en te foutant. Des bons gros copains bien gras, des longs venteux, des petits craquants gais et rapides, et tout un tas de petits polissons de paix qui se terminaient en une coulée jaillissant de ton trou.
Fais-en toucher, résiste à mon envie. Parfois, je lui cède. Pourquoi ? Donc, ce désir.
C'est merveilleux de foutre une femme qui a des pêches quand chaque coup de queue les fait sortir un par un. Je crois que je peux reconnaître n'importe où un paix de Nora. Je crois que je peux repérer le sien dans une salle pleine de femmes péteuses. C'est un bruit plutôt fillette, pas le paix mouillé lâche que j'imagine chez les femmes grasses. Il est soudain et sec et sale, comme celui qu'une petite fille effrontée décocherait la même nuit pour rire dans un dortoir. J'aimerais que Nora me décochera sans fin ses pets dans la face pour que je puisse aussi connaître leur parfum. Petite Nora péteuse, mon dégoûtant petit oiseau fauteur.
Alors, c'était quelqu'un a-t-il deviné ? Nathalie, ça compte pas, toi ! James Joyce, auteur irlandais du milieu du XXe siècle, qui a écrit notamment Ulysse et qui a écrit trois lettres comme qu'on a. Enfin, trois. En tout cas, on a retrouvé trois lettres qu'il a écrit comme ça à sa femme Nora. Il vivait, lui, à. En Irlande, je crois, elle était à Venise, où c'est l'inverse. Et comme elle savait qu'il courait beaucoup, les filles, elle lui écrivait apparemment des lettres bien salaces auxquelles il répondait de la façon dont vous avez pu voir. Vous pouvez les trouver sur Internet. Vous tapez James Joyce, lettre à Nora. Il y en a trois comme ça qui sont toutes du Maccabée, qui sont vraiment magnifiques. Dernière petite lecture avant le minuit et demi de Marc Lazzaro. qui vient ponctuer ces 24 heures avec Aurélie Rosso, qui va nous donner à entendre des lettres de... d'Angelina Beloff. Parce qu'en fait, normalement, elle devait lire des lettres, un magnifique poème d'Herberto Helder, qui est un des plus grands poètes portugais contemporains. Mais bon, ça lui a pas plu. Alors, elle a choisi autre chose et elle va vous le présenter au micro.
Come on in, come on in. It's okay, nobody's getting hurt, just come on in. Hey, hey, come on in. Come on in, it's too late now. I blew my first gun away tonight.
December 17, 1921. Diego, je ne t'ai pas écrit durant plus de 15 jours car j'ai été malade. À la suite de ma visite au Louvre, au milieu de la plus grande exaltation, j'ai commencé à tâcher une toile, agitée et avec mal à la tête. Au bout d'un moment, délaissant la toile, j'ai pris un crayon et me suis mise à faire une esquisse sur esquisse. Puis ayant épuisé tout le papier, j'ai repris les feuilles pour dessiner sur leur revers. Rien ne me contenta. Je me suis levée à 4 heures du matin, ainsi que tu le faisais, pour essayer d'organiser la composition, et j'ai continué toute la journée. Tu ne peux imaginer combien j'ai lutté. Je ne me suis même pas interrompue pour cuisiner quelque chose, et je me suis souvenue de nos bouillons d'os avec quelques petits légumes. Tu les appelais pot-au-feu. Je souriais en moi-même à l'idée d'une Angelina qui pourrait prendre soin de moi, et me priais de faire une toute petite pause pour manger un morceau. Et nerveuse, j'ai continué jusqu'au soir, reprenant encore et encore. J'ai pensé que ton esprit avait pris possession de moi, que c'était toi et non moi qui se trouvais à l'intérieur de moi, que ce désir fiévreux de peindre provenait de toi, et je ne voulus pas perdre une seconde de cet ensorcellement. J'allais jusqu'à grossir, Diego. Je débordais. Je ne rentrais plus dans le studio. J'étais aussi grande que toi. Je me battais contre les esprits. Tu m'avais dit quelquefois que tu fréquentais le diable. Et je m'en souviens à ce moment-là, parce que ma cage thoracique prenait une telle ampleur que mes seins commencèrent à enfler, ainsi que mes joues et mon double menton. J'étais comme une chambre à air. Je cherchais un miroir. Et, en effet, mon visage était là, large et bouffi, palpitant comme si on l'avait attisé de l'intérieur avec un soufflet. Comme mes tempes battaient. Et mes yeux, comme ils étaient rouges. Ce n'était qu'alors que je touchais mon front et que je m'aperçus que j'avais de la fièvre. Une sacrée fièvre. Il fallait en profiter, vivre cette heure pleinement. Je te sentis m'envelopper. C'était tes mains, Diego, et non les miennes qui se mouvaient. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai dû perdre connaissance. Parce que je me suis réveillée au matin, allongée près du chevalet et transie de froid. La fenêtre était ouverte. Sans doute l'avais-je ouverte durant la nuit, comme tu le faisais lorsque tu sentais que ton corps devenait gigantesque jusqu'à recouvrir les murs, les recoins, qu'il occupait une étendue plus grande sur la terre, qu'il allait au-delà de ses propres limites, qu'il les brisait. Évidemment, j'ai attrapé une angine de poitrine. Et si je n'avais pas reçu les soins de la concierge, ces bouillons de poule quotidiens à l'heure qu'il est, tu serais en train de dire adieu à ta Kiela. Cela m'a beaucoup affaiblie. Je ne suis pas sortie. Et hormis Atkin qui est venu un soir demander si j'avais de tes nouvelles, mon contact avec le monde extérieur est nul. Ma plus grande joie serait de voir parmi les rares lettres que je reçois, une lettre avec un timbre du Mexique. Mais ce serait là un miracle, et tu ne crois pas au miracle. J'ai été très excitée. La peinture est le thème central de mes méditations. Je peins depuis de nombreuses années déjà. J'étonnais les professeurs de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Ils disaient que j'étais très au-dessus de la moyenne, que je devrais poursuivre à Paris, et je crus en mes dons extraordinaires. Je pensais, je suis encore une étrangère dans le pays de la peinture, mais je pourrais un jour y être chez moi. Lorsque je gagnais la bourse pour aller à l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, ah, Diego, je pensais que j'avais en moi quelque chose de merveilleux, quelque chose que je devrais à tout prix protéger et sauvegarder. Mon dernier but serait Paris, l'Académie des Beaux-Arts. Je sais maintenant que l'on a besoin d'autre chose. M'en rendre compte, Diego, ce fut comme recevoir un coup de massue sur la tête et je ne peux l'effleurer en pensée sans ressentir une douleur aiguë. Bien sûr, je promets, mais depuis combien de temps est-ce que je promets ? Je suis encore une promesse. Parfois, ta propre souffrance au moment de la création me console et je pense. Si c'était dur pour lui, cela l'est davantage encore pour moi, c'est normal. Mais la consolation est de courte durée, parce que je sais que tu es déjà un grand peintre et que tu en deviendras un extraordinaire alors que j'ai tout à fait conscience que je ne parviendrai pas à être beaucoup plus que ce que je suis. Il me faudrait une grande liberté d'esprit et beaucoup de tranquillité pour entreprendre l'œuvre maîtresse. Or, ton souvenir me tourmente sans cesse, en plus des problèmes que tu connais par cœur et que je n'énumère pas pour ne pas t'ennuyer. Notre pauvreté, le froid, la solitude. Tu pourrais me dire, comme tu l'as déjà fait, que n'importe qui enviait ma solitude, que j'ai tout mon temps pour planifier et mener en bien une bonne œuvre. Mais ces jours-ci, je me suis agitée dans le lit, torturée par le souvenir de la mort de mon fils. Je sais que toi, tu ne penses plus à Dieguito. Tu as souvent coupé, la branche repousse. Tu vis dans un autre monde, alors que le mien est celui de mon fils. Je le cherche, Chatito. J'ai physiquement besoin de lui. S'il était vivant, il partagerait ce studio avec moi. Je devrais me lever, quel que soit mon état, m'occuper de lui, lui donner à manger, le changer, et le seul fait que quelqu'un puisse avoir besoin de moi me ferait du bien. Mais il est mort à présent et personne n'a besoin de moi. Tu m'as oublié dans ton Mexique que j'avais tant désiré connaître. L'Atlantique nous sépare. Ici, le ciel est toujours gris, et là-bas, dans ton pays, il est toujours bleu. Et je me débats seule sans même avoir la consolation d'avoir tracé ces quelques jours une ligne qui vaille la peine. Te quitte et t'embrasse tristement. Taquiela. Diego. Aujourd'hui, plus que jamais, je me languis de toi et je te désire. Ton grand corps remplissait tout le studio. Je n'ai pas voulu décrocher ta veste de travail du clou de l'entrée. Elle garde encore la forme de tes bras, celle d'un de tes flancs. Je n'ai pas pu la plier ni la dépoussiérer de peur qu'elle ne retrouve pas sa forme initiale et que je reste avec une espèce de filasse entre les mains. Alors oui, je m'assierai pour pleurer. La toile rugueuse me tient compagnie, je lui parle. Que de matin, je suis revenue au studio en criant « Diego ! Diego !» Ainsi que j'avais l'habitude de t'appeler, simplement parce que, depuis l'escalier, je guette cette veste accrochée près de la porte et je pense que tu es assis devant le poêle ou que, curieux, tu regardes par la fenêtre. C'est la nuit et je m'effondre. Le matin, je peux tout inventer, y compris faire face aux amis que je rencontre à l'atelier, qui me demandent ce qui se passe avec toi et auxquels je n'ose pas avouer que je n'ai pas reçu une seule ligne de toi. Je réponds évasivement que tu vas bien, que tu travailles. En réalité, j'ai honte de ne rien pouvoir leur communiquer. Jacobsen veut aller au Mexique et il t'a envoyé aux soins de l'Université nationale 3 télégrammes avec réponse payée, mais aucun n'a obtenu de réponse. Elifor a été un peu malade et il se plaint de ton silence. Tous demandent de tes nouvelles, ou plutôt le faisaient-ils au début, puis de plus en plus rarement, jusqu'à maintenant. Et c'est cela qui me blesse, cher Diego. C'est leur silence conjugué au tien, un silence complice, terrible. D'autant plus marquant que notre sujet de conversation a toujours été toi, ou la peinture, ou le Mexique. Nous essayons de parler d'autre chose. Je vois bien comme ils s'y efforcent avant de prendre congé et que moi je reparte, plongée à nouveau dans ma sphère de silence qui est toi. Toi et le silence, moi à l'intérieur du silence, moi à l'intérieur de toi qui est l'absence. Je marche le long des rues à l'intérieur de la carapace de ton silence. L'autre jour, j'ai vu clairement Marie Zetting, et je suis sûre qu'elle m'a vue. Or, elle a baissé la tête et elle est passée de l'autre côté du trottoir pour ne pas me saluer. Peut-être est-ce à cause de Dieguito. Peut-être a-t-elle pitié de moi, ou simplement était-elle pressée et je suis devenue, moi, d'une susceptibilité exacerbée. Maintenant que tu n'es plus là, je pense que nos amis sont restés dans l'expectative. Ils me fréquentent entre-temps, le temps que tu reviennes, et en attendant, ils ne viennent me trouver que pour avoir des nouvelles. J'accepte qu'ils ne le fassent pas pour moi-même. Après tout, sans toi, je suis bien peu de chose. Ma valeur est déterminée par l'amour que tu me portes, et pour les autres, je n'existe que dans la mesure où tu m'aimes. Si tu cesses de le faire, ni eux, ni moi ne pourront m'aimer. Autrefois, j'avais Dieguito. Il ne faisait plus aussi froid dans l'atelier. Te souviens-tu ? Mais il fallait aller chercher du charbon tous les jours. Même toi, à l'occasion, tu finissais par y aller, laissant inachevé ton travail. Je sentais que Dieguito ne se rétablissait pas, ou du moins, pas complètement. J'entendais toujours ce petit sifflement dans sa respiration et non plus le rythme régulier et silencieux de ses premiers jours. De temps en temps, je me penchais au-dessus du berceau et ce geste t'irritait. « Il ne lui arrive rien, laisse-le donc, Angelina, tu lui voles l'air. » Notre pauvre fils. Une nuit, il commença à se plaindre atrocement. En 1917, il y avait à Paris une épidémie de méningite. Après, tout alla très vite. L'enfant, dont la tête se perdait auparavant dans les draps, en arrivant à n'être plus qu'une tête, et ce crâne gonflé comme un ballon sur le point d'éclater, te répugnait. Tu ne pouvais le voir, tu ne voulais le voir. L'enfant pleurait sans répit. Je peux encore entendre ses cris qui usaient tant tes nerfs. Lorsque j'entends un enfant pleurer dans la rue, je m'arrête, je cherche dans ses pleurs le son particulier des pleurs de Dieguito. Les Etting ne se trouvaient plus à Paris. Tu allais chercher le charbon, je crois, par impuissance devant la souffrance. Je me souviens d'un soir où tu essayais de lire le journal, et ton geste de désespoir est resté gravé en moi. Je ne peux pas, Kiela. Je ne comprends rien à rien, rien à ce qui se passe dans cette chambre. Tu t'arrêtas de peindre, Dieguito mourut. Nous allâmes presque seuls au cimetière. Marie Blanchard avait le visage baigné de larmes. Elle avait toujours dit que Dieguito était son filleul, le fils qu'elle n'aurait jamais. Ce jour-là, il fit un froid atroce. Peut-être bien que je le portais en moi. Toi, tu étais absent. Pas une seule fois tu ne m'adressais la parole. Tu ne bougeas même pas lorsque je te pris par le bras. Je fis cadeau du berceau à la concierge. Je lui laissai tout ce qui appartenait à Dieguito. J'avais pensé à le lui donnant, que je pourrais peut-être lui demander de me le prêter plus tard, au cas où nous aurions un autre enfant. Je désirais toujours en avoir un autre, mais tu me le refusas. Je sais qu'à présent ma vie avec serait difficile, mais elle aurait un sens. Cela me fait très mal, Diego, que tu te sois refusé à me donner un enfant. L'avoir aurait empiré ma situation, mais mon Dieu, comment il aurait donné un sens à ma vie. Je vois le ciel gris, j'imagine le tien sauvagement bleu, ainsi que tu me l'as décrit. J'espère pouvoir le contempler un jour. En attendant, je t'envoie tout le bleu dont je suis capable. Je t'embrasse et suis toujours tienne, qui est là. 2 janvier 1922. Parmi les papiers qui se trouvent sur la table, à la place des croquis habituels, j'ai écrit d'une écriture que je ne reconnais pas. Il est 6 heures du matin et Diego n'est pas ici. Sur une autre feuille blanche, que je n'oserais jamais utiliser pour autre chose qu'un dessin, je regarde, surprise, mon griffonnage. Il est 8 heures du matin, je n'entends pas Diego faire de bruit. Aller aux toilettes, parcourir la distance qui sépare l'entrée de la fenêtre, d'un mouvement lent et grave, ainsi qu'il a coutume de le faire pour aller regarder le ciel, et je crois que je vais devenir folle. Et plus bas, sur la même feuille, il est 11 heures du matin. Je suis un peu folle. Diego n'est définitivement plus là. Je pense qu'il ne reviendra jamais. Et je tourne dans la pièce comme quelqu'un qui aurait perdu la raison. Je n'ai rien pour m'occuper. Les gravures ne viennent pas. Je ne veux pas, aujourd'hui, être douce, tranquille, décente, soumise, compréhensive, résignée. Ces qualités que les amis louent tellement. Je ne veux pas non plus être maternelle. Diego n'est pas un grand enfant. Diego n'est qu'un homme qui n'écrit pas parce qu'il ne m'aime pas et qu'il m'a complètement oublié. Les derniers mots sont écrits avec violence, déchirant presque le papier, et je pleure devant la puérilité de mon défoulement. Quand ai-je écrit cela ? Hier ? Avant-hier ? La nuit dernière ? Il y a 4 nuits ? Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas. Mais à présent que je vois mon délire, je te demande, Diego. Et c'est là sans doute la question la plus grave que j'ai posée dans ma vie. Diego, tu ne m'aimes plus ? Je voudrais que tu me répondes en toute franchise. Tu as disposé d'assez de temps pour réfléchir et prendre une décision. À présent, il est temps que tu l'exprimes. Autrement, nous arriverons à une souffrance inutile. Inutile et monotone, comme un mal aux dents et avec la même issue. Le fait est que tu ne m'écris pas, que tu ne m'écriras de moins en moins si nous laissons le temps s'envoler de la sorte, et que, au bout de quelques années, nous finirons par nous voir comme des étrangers, si encore nous arrivons à nous voir. Quant à moi, je peux affirmer que le mal aux dents continuera jusqu'à ce que la racine pourrisse. Alors, ne vaudrait-il pas mieux, si plus rien en toi ne penche pour ma personne, que tu m'arraches la dent une bonne fois pour toutes ? Je reçois de temps à autre les envois d'argent, mais tes mots sont de plus en plus laconiques, de plus en plus impersonnels, et avec le dernier envoi, pas une seule ligne de toi. Je me nourris indéfiniment d'un « je vais bien ». J'espère qu'il en est de même pour toi. Au revoir, Diego. Et j'essaie de deviner derrière ton écriture adorée quelques messages secrets, mais le côté dégagé des lignes écrites à toute vitesse stimule peu l'imagination. Je m'accroche à la phrase « j'espère qu'il en est de même pour toi ». Et je pense « Diego veut que je me sente bien ». Mais mon euphorie est de courte durée. Je n'ai rien pour l'alimenter. Je devrais peut-être comprendre à travers cela que tu ne m'aimes plus, mais je ne peux l'accepter. De temps en temps, comme aujourd'hui, j'ai un pressentiment, mais je m'efforce de l'effacer coûte que coûte. Je me lave à l'eau glacée pour essayer d'effrayer les oiseaux de mauvais augure qui rôdent à l'intérieur de moi. Je sors et marche dans la rue. J'ai froid. Je fais mon possible pour rester active, mais en réalité, je délire. Je me réfugie dans le passé. Je me remémore nos premières rencontres où je t'attendais, malade de tension et de joie. Je pensais alors, au milieu de cette foule, en plein jour, parmi tous ces gens, parmi ces hommes et ces femmes qui surgissent de la bouche du métro et qui montent l'escalier, il va apparaître sur le boulevard Raspail, non, sur celui de Montparnasse. Et puis non, il n'apparaîtra jamais, parce qu'il n'est qu'un produit de mon imagination, et par conséquent, je me retrouverai planté là, dans ce café, devant cette table ronde, et quand bien même j'ouvrirai davantage les yeux et mon cœur se mettrait à battre de plus belle, je ne verrai jamais personne qui ressemble, même de loin, à Diego. Je tremblais, Diego. Je ne pouvais plus porter la tasse à mes lèvres. Comment était-il possible que tu puisses marcher dans la rue comme le commun des mortels et choisir de prendre le trottoir de droite ? Seul un miracle pourrait te faire émerger de cette poignée de gens la tête baissée, sombre et sans figure, et approcher de moi le visage levé, avec ton sourire qui me réchauffe rien que d'y penser. Tu t'asseyais à côté de moi, comme si de rien n'était, ignorant ma douloureuse expectative, et tu te retournais pour regarder l'Indien qui lisait le London Times et l'Arabe qui nettoyait ses ongles avec une fourchette. Je te revois avec ta taille monumentale, ton ventre te devançant toujours, tes chaussures sales, ton vieux chapeau gondolé, ton pantalon froissé, et je pense que personne ne pourrait porter avec une telle noblesse des affaires aussi amochées. Je t'écoutais, ardente, les mains brûlantes sur mes cuisses. Je ne pouvais pas avaler ma salive et pourtant j'avais l'air tranquille et tu le remarquais. Comme tu es calme, Angelina. Quelle retenue. Comme ton nom te va bien. J'entends un bruissement d'ailes imperceptible. Moi, j'étais comme droguée. Tu occupais toutes mes pensées et j'avais une peur bleue de t'embarrasser. Je t'aurais envoyé un télégramme la nuit même pour recomposer notre rencontre, parce que je me remémorais chacune de nos phrases et que je me sentais malheureuse à cause de ma maladresse, de ma nervosité, de mes silences. Je recréais une rencontre idéale, Diego, afin que tu puisses retourner à ton travail avec la certitude que j'étais digne de ton attention. Je tremblais, Diego. J'étais très consciente de mes sentiments et de mes désirs inarticulés, alors que j'avais tant de choses à te dire. Je passais mes journées à me répéter ce que je te dirais en te voyant, mais le moment venu, je restais interdite. Et la nuit, épuisée, je pleurais sur l'oreiller, je mordais mes mains. Demain, il ne viendra pas au rendez-vous. Demain, je suis sûre qu'il ne viendra pas. Quel intérêt peut-il donc me trouver ? Et le lendemain soir, je me retrouvais devant le marbre de ma table ronde, entre la table d'un Espagnol qui regardait lui aussi vers la ruelle et celle d'un Turc qui vidait le sucrier dans son café. Tous deux étrangers à mon désespoir, à la tasse entre mes mains, à mes yeux dévorant cette masse grise et anonyme qui passait dans la rue, masse avec laquelle tu devrais faire corps pour parvenir jusqu'à moi. Diego, est-ce que tu m'aimes ? Oui, c'est douloureux, mais également indispensable de le savoir. Tu vois, Diego, durant toutes ces années passées ensemble, mon caractère, mes habitudes, tout mon être, en somme, a subi un changement total. Je me suis terriblement mexicanisée et je me sens liée par procuration à ta langue, à ta patrie, à des milliers de petites choses, et je crois que je me sentirai beaucoup moins étrangère auprès de toi que je ne le serais dans n'importe quel autre pays. Le retour à mon foyer paternel est définitivement exclu, non tant à cause des événements politiques que parce que je ne m'identifie pas à mes compatriotes. Je m'adapte au contraire très bien aux tiens et me sens plus à l'aise parmi eux. Ce sont nos amis mexicains qui m'ont encouragé à penser que je peux gagner ma vie à Mexico en donnant des cours. Mais après tout, ces choses-là sont secondaires. Ce qui est important, c'est que je ne peux entreprendre aucune démarche pour aller dans ton pays si tu ne ressens plus rien pour moi ou si la simple idée de ma présence t'incommode. Si ce n'est pas le cas, je pourrais même t'être utile. Moudre tes couleurs, faire tes poncifs, t'aider comme je le fis durant la guerre lorsque nous étions en Espagne et en France. C'est pourquoi je te demande d'être clair sur tes intentions, Diego. Cette semaine, j'ai trouvé un grand soutien dans l'amitié des peintres mexicains à Paris. En particulier, Angel Zaraga, au contact si doux, discret, au point d'être timide. Parmi eux, je me sentirais presque au Mexique, davantage près de toi. Quoi qu'il en soit, moins expressif, plus circonspect, moins libre. Toi, tu soulèves des tourbillons sur ton passage, et je me souviens d'une fois où Zadkine m'a demandé « Il est saoul ?» Ton ivresse venait de tes images, des mots, des couleurs. Tu parlais et nous t'écoutions tous, incrédules. Pour moi, tu étais un tourbillon en chair et en os, et en plus de l'extase dans laquelle je tombais en ta présence, auprès de toi, le monde m'appartenait un peu. L'autre jour, Elifor m'a dit que depuis que tu étais parti, une source de légende d'un monde surnaturel s'était tarie et que nous autres, Européens, avons besoin de cette mythologie nouvelle parce qu'en Europe, la poésie, la fantaisie, l'intelligence sensitive et le dynamisme de l'esprit étaient morts. Nous avons besoin de toutes ces fables que tu élaborais autour du soleil et des premiers habitants du monde, de tes mythologies. Le vaisseau spatial en forme de serpent à plumes qui exista naguère tournoya dans le ciel et se posa au Mexique nous manque. Nous ne savons plus regarder la vie avec cette gourmandise, avec cette révolte fougueuse, avec cette colère tropicale. Nous sommes plus indirects, plus inhibés, plus sournois. Je n'ai jamais pu exprimer de la façon dont tu le faisais. Chacune de tes manières est créative, elle est neuve, comme si tu étais un nourrisson, un homme non encore entamé, virginal, d'une inexplicable et grande pureté. Il m'est arrivé une fois de le dire à Bax, et il m'avait répondu que tu étais originaire d'un pays qui vient tout juste de naître. « C'est un sauvage », avait-il répliqué, « et les sauvages ne sont pas encore contaminés par notre civilisation décadente. Mais prends garde, car on dit qu'ils ne le font qu'une bouchée des femmes petites et blanches. Tu vois, Diego, combien nous te gardons présents. Comme tu peux le constater, nous sommes tristes. Que fais-tu au Mexique, Diego? Que peux-tu bien être en train de peindre? Bon nombre de nos amis se sont dispersés. » Marie Blanchard est retournée peindre à Bruges et elle m'a écrit qu'elle a essayé de louer une chambre dans la même pension où nous fûmes si heureux et nous amusâmes tant lorsque tu te levais à l'aube pour adorer le soleil et que les femmes qui allaient au marché laissaient tomber leurs paniers remplis de tomates, levaient les bras au ciel et se signaient en te voyant tout nu derrière la balustrade de la fenêtre. « Ortiz des Arates et Angel Zaraga pensent rester encore un moment. Lipchitz avait également évoqué son voyage, mais dernièrement j'ai perdu sa trace car il a cessé de me rendre visite. Picasso est parti vers le sud à la recherche du soleil. Hayden, à qui j'avais fait part de la fréquence à laquelle je t'écrivais, m'a dit en ouvrant les bras « Mais Angelina, combien de temps crois-tu que les lettres prennent pour lui parvenir ?»« Elles tardent beaucoup, beaucoup. 1, 2 ou 3 mois. Et si tu me dis que tu écris à Diego tous les 8 ou 15 jours, il n'a pas le temps de te répondre. » Il m'a un peu apaisée, pas tout à fait, mais enfin, j'ai entrevu l'hypothèse que la nature puisse conspirer à notre rencontre. Mon cher Diego, je t'embrasse très fort, désespérément, par-dessus l'océan qui nous sépare. Taquiela.